la tragédie de Hussein, que la paix soit sur lui. Shir Sadouk. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. Le noble Coran, sourate 33, verset 21. Préface de l'éditeur. Ashura détient une place emblématique et représente une commémoration fondamentale aux yeux des chiites du monde entier. Dans bien des recoins de la planète, se tiennent chaque année des assemblées pour perpétuer l'évocation, le message et les causes du martyr de Hussein, que la paix soit sur lui. Petit-fils du prophète Mohammed, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille. Assassiné à Karbala, en Irak, en l'an 61 de l'Hégire. Ces rassemblements ont pour objectif de remémorer l'histoire de Hussein, que la paix soit sur lui, mais surtout de véhiculer les principes de valeur transcendants de son entière existence. Aussi, cet événement est indéniablement répertorié dans l'histoire islamique. Il se transmet et se perdure au fil des générations et nous parvient donc inévitablement à travers de multiples sources. Lorsque la curiosité constructive se soulève, que les souhaits de se pencher plus profondément sur l'histoire s'amorcent, la démarche à opérer est de mener des investigations structurées et méthodiques. Le premier pas à emboîter consiste à débuter la collecte de l'ensemble des sources écrites, dans lesquelles a été rapporté l'événement de Karbala. Le constat est sans appel. La vaste majorité des sources historiques est rédigée en langue arabe, et donc inaccessible aux lecteurs francophones. Face à une telle indigence en matière de ressources traduites, le projet Hussein.fr voit le jour et se donne pour ambition de faciliter l'accès à tout individu désirant se référer à l'histoire concernée. Ceci, afin de pouvoir encore mieux concentrer l'attention sur les véritables desseins de Hussein, que la paix soit sur lui, d'élever la réflexion qui miroitera sur la pratique et l'état interne de tout un chacun. À l'ère où la connaissance est affluente, où l'information est relayée à une vitesse époustouflante, les opinions infondées, voire malencontreusement farfelues, circulent librement, tout comme la possibilité d'accéder à des idées dignes de fiabilité est grandement concevable. Il incombe ainsi à l'individu doté de raison de saisir l'opportunité de mener sa propre expertise et de faire confiance en sa capacité de discerner les réels enjeux à se référer à des sources historiques incontournables. À l'ère de l'information, opter d'adhérer à des opinions communes peu fondées face à des sources fiables est un choix, tout comme vouloir conserver une ignorance radicale en est un. Ne pas avoir confiance en sa capacité de réflexion est sujette à discussion, mais par-dessus tout, prime la liberté de choix. Ce principe universel force le respect mutuel qui va de pair avec l'intelligence et le savoir-vivre humain. Préface du traducteur. Les objectifs, les visées et l'essence même du projet Hussein.fr consiste à traduire et mettre à disposition des lecteurs francophones les principales œuvres et sources historiques se rapportant au martyr de Hussein ibn Ali, que la paix soit sur lui. Petit-fils du messager de Dieu, que les bénédictions et salutations d'Allah soient sur lui et sa famille. Il, que la paix soit sur lui, fut assassiné par les ordres du calife Omeyyad Yazid ibn Muawiyah, en l'an 61 de l'Hégire dans le désert de Karbala. Ce projet prend son élan avec la parution de l'ouvrage « L'événement de Karbala » d'Abou Mikhnaf en 2016. S'ensuit « Le martyr de Hussein » de Sheikh el-Moufid en 2017. Et voici à présent le troisième corpus « La tragédie de Hussein » de Sheikh Sadouk. Ce dernier opuscule regroupe un ensemble de narrations extraits du livre « Al-Amali » de l'auteur du même nom. Le livre Al-Amali renferme la transcription des assemblées de Sheikh Sadouk, qui se tenaient à Mashhad les mardis et vendredis de chaque semaine, du 18 Rajab 367 après Hégire au 11 Sha'ban 368 après Hégire. L'éminent savant chiite dictait à ses disciples différentes narrations qu'il retranscrivait mot à mot, D'où le terme « amali », qui est le pluriel de « imla », c'est-à-dire « dictée ». C'était une méthode couramment utilisée par les savants et leurs disciples, à la fin du IVe siècle de l'Égire. Le livre aborde différentes thématiques qui traitent généralement de la morale, de l'histoire et des vertus de la famille du prophète de l'islam. Ces narrations débutent par les chaînes de transmetteurs, une mention qui manifeste l'étendue de l'érudition de Sheikh Sadok dans le domaine des hadiths islamiques. En effet, après les avoir sélectionnés selon ses propres critères de recherche et d'éligibilité de hadith, il y a regroupé des transmissions aussi bien chiites que sunnites. Présentation de Sheikh Sadok. Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Musa ibn Babawi al-Kummi, communément appelé Sheikh Sadok, est l'un des plus illustres savants chiites du IVe siècle de l'Égire. Il est le fils de Ali ibn al-Hussein, dont le statut était de référence parmi tous les savants et érudits de Qom en matière de science du hadith. Ce dernier assurait également les fonctions de jurisconsulte, d'homme de confiance et de dirigeant des habitants de Qom. La date de naissance de Sheikh Sadok ne peut être définie précisément, mais d'après les œuvres Kamal al-Din et al-Ghaiba de Sheikh Toussi, il est déduit qu'il serait né en 305 après Égir, suite à la mort de Muhammad ibn Uthman al-Amri, le deuxième représentant de l'imam al-Mahdi. Aussi, Sheikh Sadok aurait lui-même évoqué le propos suivant. Après la mort de Muhammad ibn Uthman al-Amri, mon père a demandé à Hussein ibn Raou, le troisième représentant de l'imam Mahdi, de présenter sa requête à l'imam Mahdi. Priez qu'Allah lui fasse la faveur d'un fils. Trois jours plus tard, mon père fut informé que l'imam avait répondu à sa demande et qu'Allah le gratifierait d'un fils. De plus, Sheikh Sadok vécut à une époque proche de celle des imams et recueillit un nombre important de hadiths relatés de la famille du prophète Ahl al-Bayt. Ainsi, les a-t-il compilés dans divers corpus de grande valeur et de renommée scientifique, et put, de cette façon, apporter une grande contribution à l'histoire du chiisme et par extension à celle de l'islam, comme peu de savants le firent. Il est également rapporté de Sheikh Toussi que Sheikh Sadok maîtrisait les hadiths par cœur, qu'il était érudit dans les sciences du hadith, et qu'il ne détenait de semblables dans la ville de Qom. Il faut savoir que plus de 300 ouvrages lui sont attribués, mais dont la majorité a en revanche disparu de nos jours. Pour les chiites duodécimains, l'ouvrage Man la yadur al-Faqih, dont il est l'auteur, compte parmi les quatre principaux livres de référence dans le domaine des hadiths. Mais encore, d'autres de ses ouvrages les plus importants et reconnus qui peuvent être cités sont Ma'ani al-Akhbar, Uyun Akhbar al-Ridha, al-Khisal, Ilal al-Shari'i et Sifat al-Shi'a. Par ailleurs, au-delà de sa large production bibliographique, il eut une conséquente influence sur bien des disciples. Parmi eux figurent deux savants très célèbres, Sayyid al-Murtada et Sheikh al-Mufid. Sheikh Sadok quitta ce monde en l'an 381 après Égir et fut inhumé à Rey, dans le sud de Téhéran. Son sépulcre réside dans un cimetière connu sous le nom de cimetière d'Ibn Babawi, et les gens continuent toujours de le visiter. En l'an 1238, à l'époque de Fath Ali Shah Qajar, survint une inondation qui endommagea sa sépulture. Alors que cet incident avait eu lieu des siècles après son décès, il fut constaté que son corps était encore très bien conservé. La traduction du livre. Le présent opuscule est la traduction des narrations des assemblées 30 et 31, extraites de Al-Amali, qui traite précisément des récits du martyr de l'imam Hussein. Afin de maximiser la valeur scientifique et historique du texte originel, la traduction a été intégralement et directement réalisée à partir de la langue arabe, langue initiale du texte et des narrations d'origine. Le livre pris en référence est Al-Amali, paru chez Mouassassat al-A'allami lil-Madbu'at, première édition, 1430 après Égir, 2009, édité à Beyrouth. Enfin, dans l'intention d'obtenir une adaptation optimale du texte, d'un arabe littéraire ancien à un français accessible et courant, tout en préservant la fidélité du texte originel, un groupe de relecteurs et correcteurs a activement participé à la réalisation de ce travail. Quant à la traduction des versets coraniques, elle a été principalement inspirée des traductions françaises de Denise Masson, 1901-1994, et de Mohamed Hamidallah, 1908-2002. J'exprime ma profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet opuscule, que ce soit de près ou de loin, par un investissement personnel ou un simple encouragement, par une parole ou un geste ou encore même un silence approbateur. Qu'Allah les gratifie toutes, sans lui, aucune avancée, qu'il soit loué et glorifié et qu'il agrée cet effort collectif. Murtada Raja Hussein, vendredi 14 septembre 2018, île de la Réunion. Majlis 30. Majlis du samedi 9 Muharram de l'an 368 après Hégir. Le martyr de Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Que la paix soit sur eux. La chaîne de transmission du principal récit. L'éminent et le vertueux Cheikh Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Musa ibn Babawi al-Qummi nous affirma: Muhammad ibn Umar al-Baghdadi al-Hafiz nous dit: Abu Saïd al-Hassan ibn Huthman ibn Ziyad al-Tustari nous rapporta de son livre: Ibrahim ibn Ubaidallah ibn Musa ibn Yunus ibn Abi Ishaq al-Subayyi, juge de Balkh, nous dit: Mureysa bint Musa ibn Yunus ibn Abi Ishaq, et qui était ma tante, me dit: Safiya bint Yunus ibn Abi Ishaq al-Hamdaniya, qui était ma tante, me dit: Bahjat bin Harith ibn Abdallah al-Taghlabi me rapporta de son oncle maternel Abdallah ibn Mansour, qui était le fils de lait de quelques enfants de Zayd ibn Ali. Je demandai à Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein: Raconte-moi le martyr du fils du messager d'Allah. Il me répondit: Mon père me rapporta du sien. Chapitre 1. Hussein à Médine. Lorsque Muawiya était sur le point de mourir, il convoqua son fils Yazid, qu'Allah le maudisse, le fit asseoir auprès de lui avant de lui dire: Ô mon fils, je t'ai fait soumettre les éléments obstinés, j'ai fortifié pour toi les régions, j'ai mis le royaume et tout ce dont il dispose sous ton contrôle, mais je crains trois personnes qui s'opposeront à toi vigoureusement. Elles sont Abdallah ibn Omar ibn Khattab, Abdallah ibn Zubayr et Hussein ibn Ali. En ce qui concerne Abdallah ibn Omar, il est avec toi, mais garde toujours un œil sur lui et ne le lâche pas. Quant à Abdallah ibn Zubayr, réduis-le en morceaux si tu le vins, car il sera aux aguets tel un lion face à sa proie et rusera contre toi tel un renard face au chien. Enfin, pour ce qui est de Hussein, tu connais très bien ses liens avec le messager d'Allah. Il est de son sang et de sa chair. Et tu sais pertinemment que les habitants d'Irak ne cesseront de l'appeler jusqu'à le pousser à la révolte avant de l'abandonner et de renoncer à lui. Si tu le domines, pardonne-le, car il jouit d'un statut très proche du prophète et d'un grand droit. Quoi qu'il en soit, nous lui sommes liés et avons des liens de parenté avec lui. Je te mets en garde de ne pas le maltraiter, ni qu'il se sente brutalisé de ta part. Il continua: Lorsque Muawiya mourut et que Yazid prit le pouvoir, ce dernier affecta son oncle Utba ibn Abi Sofyan comme gouverneur de la ville du messager d'Allah. À son arrivée à Médine, Marwan ibn Hakam était le gouverneur qui avait été choisi par Muawiya. Utba le destitua de ses fonctions et prit sa place. Il voulut mettre à exécution les ordres de Yazid concernant Marwan, mais ce dernier réussit à s'enfuir. Il ne put donc l'appréhender. Utba envoya un messager à Hussein ibn Ali pour le convoquer. Il lui dit « L'émir des croyants t'ordonne de lui prêter serment d'allégeance. » Hussein lui répondit « Oh Utba, tu sais très bien que je fais partie des honorables gens de la maison du prophète, Ahl al-Bayt, noyau dur du message, porte-étendard de la vérité, qu'Allah, le puissant et l'exalté, a déposé dans nos cœurs. Vérité qu'il a fait exprimer à travers nos langues et que nous avons formulée par le vouloir d'Allah, le puissant et l'exalté. J'ai entendu mon grand-père, le messager d'Allah, dire « Le califat est interdit aux enfants d'Abu Sofyan. Par conséquent, comment pourrais-je prêter allégeance à une famille sur laquelle le messager d'Allah a dit de telles paroles ?» Lorsque Utba entendit ces mots, il convoqua le scribe et lui demanda d'écrire. « Par le nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, au serviteur d'Allah, Yazid, émir des croyants, de Utba ibn Abi Sofyan, de toute évidence, Hussein ibn Ali ne reconnaît pas ton califat ni ne te prête allégeance. Quelle est ta décision le concernant? Paix sur toi. » Après avoir reçu la lettre, Yazid répondit à Utba. « Dès que tu reçois cette lettre, dépêche-toi de me répondre. Inscris-y tous ceux qui rentrent sous mon commandement et tous ceux qui le contestent. Que ta réponse soit accompagnée de la tête de Hussein ibn Ali. » Lorsque Hussein apprit la nouvelle, il se résolut à quitter la région du Hijaz pour l'Irak. Quand la nuit tomba, il partit à la mosquée du prophète pour faire ses adieux sur sa tombe. En arrivant à la tombe, une lumière resplendit de celle-ci avant de disparaître dans la tombe. Le soir suivant, il partit à nouveau faire ses adieux sur la tombe. Il fit longuement la prière et lorsqu'il se prosternait, il s'assoupit. Durant ce temps, le prophète lui apparut dans son rêve. Il prit Hussein, le serra contre sa poitrine et commença à l'embrasser entre ses yeux. Puis lui dit « Que mon père te soit sacrifié. C'est comme si je te voyais gisant sur le sable, recouvert de sang au milieu d'une horde de cette communauté qui espère mon intercession. Mais elle ne bénéficiera d'aucune faveur auprès d'Allah. » « Ô mon fils, tu es sur le point de rejoindre ton père, ta mère et ton frère, et ils t'attendent impatiemment. Sache que des degrés du paradis te sont réservés et que tu ne sauras les atteindre qu'après avoir subi le martyre. » Hussein sortit de son sommeil, éploré, puis rejoignit les membres de sa famille et leur fit part de son rêve avant de leur dire au revoir. Il installa ses sœurs, ainsi que sa fille et son neveu Qasim ibn Hassan ibn Ali, sur des palanquins et prit la route en compagnie de 21 hommes de sa famille et de ses compagnons. Parmi eux, on trouve Abu Bakr ibn Ali, Muhammad ibn Ali, Uthman ibn Ali, Abbas ibn Ali, Abdullah ibn Muslim ibn Akil, Ali ibn al-Hussein al-Akhbar, Ali ibn al-Hussein al-Asqar. Lorsque Abdullah ibn Omar apprit que Hussein quittait Médine, il chevaucha sa monture et se précipita pour rattraper la caravane. Il la rejoignit dans une des stations à la sortie de Médine. Il s'adressa à Hussein. « Où vas-tu, ô fils du messager d'Allah ?» Il répondit « En Irak. » Il dit « Attends, reviens dans la ville de ton grand-père. » Hussein refusa sa proposition. En constatant ce refus, Ibn Omar lui dit « Oh Aba Abdullah, montre-moi l'endroit que le messager d'Allah avait l'habitude d'embrasser. » Hussein dévoila son nombril et là, Ibn Omar l'embrassa trois fois, puis pleura. Ensuite, il lui dit « Je te confie à Allah, ô Aba Abdallah, car en vérité, tu seras tué lors de ce voyage. » Chapitre 2 Hussein sur la route vers Koufa. Hussein et ses compagnons continuèrent la route jusqu'à arriver à Tha'labiyya. À cet endroit, un homme du nom de Bishr ibn Ghalib vint voir Hussein et lui dit « Ô fils du messager d'Allah, explique-moi le sens du verset « Le jour où nous appellerons chaque groupement d'hommes par leur imam ». Il lui répondit « Il s'agit de l'imam qui invite les gens à la guidance et qui est suivi, ou de l'imam qui entraîne les gens à la perdition et qui est suivi. Les premiers iront au paradis et les seconds en enfer, comme l'indique la parole d'Allah, le puissant et l'exalté. Un groupe au paradis et un groupe dans la fournaise ardente. » Après quoi, il continua la route jusqu'à arriver à Uzaïb. Il y fit la sieste du midi, mais se réveilla éploré de son sommeil. Alors son fils lui demanda « Pourquoi pleures-tu, cher père ?» Il lui répondit « Oh mon fils, c'est un moment où les rêves ne tombent pas faux. J'ai vu quelqu'un en rêve me dire « Vous avancez rapidement alors que la mort vous emmènera au paradis. » Ensuite, il continua la route jusqu'à arriver à Ruhayma où il rencontra un homme de Koufa dont le surnom était Abu Harim. Ce dernier lui dit « Ô fils du prophète, pourquoi as-tu quitté Médine ?» Hussein lui répondit « Qu'Allah te fasse miséricorde, ô Abu Harim. Ils ont voulu me déshonorer, mais je n'ai rien dit. Ils ont voulu me confisquer mes biens, mais j'ai patienté. Mais lorsqu'ils ont voulu me prendre ma vie, j'ai dû fuir. Par Allah, ils finiront par me tuer. En conséquence, Allah les humiliera complètement, les détruira par l'épée et les soumettra à l'autorité de quelqu'un qui les déshonorera. » Lorsque Ubaydallah ibn Ziyad apprit que Hussein était arrivé à Ruhayma, il dépêcha vers lui Hur ibn Yazid avec un escadron de 1000 cavaliers. Hur relata « Lorsque je quittais ma maison pour me diriger vers Hussein, j'entendis trois fois « Oh Hur, reçois la bonne nouvelle de ton entrée au paradis. » Mais lorsque je me retournai, je ne vis personne. Je me suis alors dit « Que ta mère sanglote de tristesse sur ton sort, Hur. Tu te diriges pour affronter le fils du messager d'Allah et on t'annonce la bonne nouvelle du paradis. » Hur atteignit la caravane de Hussein au moment de la prière de midi. Ce dernier demanda à son fils de lancer l'appel à la prière et de réciter l'Iqama. Hussein se leva et dirigea la prière pour les deux groupes. La prière terminée, Hur ibn Yazid se précipita vers Hussein et lui dit « Que la paix soit sur toi, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, ô fils du messager d'Allah. » Hussein dit « Que la paix soit sur toi, qui es-tu ? « Ô serviteur d'Allah !» Il répondit « Je suis Hur ibn Yazid. » Il dit « Ô Hur, es-tu avec nous ou contre nous ?» Hur répondit « Ô fils du messager d'Allah, par Allah, j'ai été envoyé pour vous combattre, mais je demande protection à Allah pour qu'il ne me fasse pas ressusciter de ma tombe, les cheveux attachés aux pieds, les mains attachées au cou, me faisons jeter face contre le feu de l'enfer. Ô fils du messager d'Allah, où vas-tu? Retourne à la ville sacrée de ton grand-père, sinon tu te feras tuer. » Hussein lui dit, « Je continue. La mort n'est pas une honte pour un jeune homme. Lorsqu'il désire le vrai, qu'il combat en étant musulman qu'il vient en aide aux hommes vertueux en sacrifiant sa vie et qu'il abandonne le pécheur et s'éloigne du dépravé. Si je reste en vie, je n'aurai pas de regrets, et si je meurs, je ne m'en voudrai pas. En revanche, il est suffisamment humiliant pour toi de rester en vie face contre terre. » Ensuite, Hussein continua sa route jusqu'à arriver à Kutkutana. À cet endroit, il s'arrêta et vit qu'une grande tente était installée. Alors il demanda « À qui est cette grande tente ?» On lui répondit « À Ubaydullah ibn Hawr al-Ju'fi. » Hussein lui envoya donc un messager. Il lui dit « Ô homme, tu es dans l'erreur et Allah, le puissant et l'exalté, te reprochera ton action sauf si tu te repens à lui, le glorifié et l'élevé, à l'instant même en m'apportant ton aide. Ainsi, mon grand-père intercédera en ta faveur devant Allah, le glorifié et l'élevé. » Il répondit « Ô fils du messager d'Allah, par Allah, si je te viens en aide, je serai le premier à me faire tuer devant toi. En revanche, voici mon cheval, prends-le. Par Allah, à chaque fois que je l'ai chevauché, j'ai toujours obtenu ce que je cherchais et je m'en suis sorti sain et sauf quand j'étais en danger. Il est à toi, prends-le. » À ce moment, Hussein détourna son visage et lui dit « Finalement, nous n'avons besoin ni de toi, ni de ton cheval. Et je ne prends qu'en aide ceux qui égarent. Dans ce cas, sauve-toi. Si tu n'es pas de notre côté, alors ne sois pas non plus avec ceux qui nous combattent. Car celui qui entend notre cri, nous, la famille du prophète, mais qui ne nous vient pas en aide, alors Allah abattra son visage dans le feu de l'enfer. » Chapitre 3. Hussein arrive à Karbala. Puis Hussein continua la route jusqu'à arriver à Karbala. Là, il demanda « Quel est cet endroit ?» On lui répondit « Ô fils du messager d'Allah, c'est Karbala. » Alors il dit « Par Allah, c'est un jour d'affliction et d'adversité. C'est l'endroit où coulera notre sang, où notre honneur sera souillé. » Puis arriva Ubaydullah ibn Ziyad avec son armée. Ils installèrent leur camp à Nukhayla. De là, ils envoya à Hussein un dénommé Omar ibn Sa'ad à la tête d'un bataillon de 4000 cavaliers. Successivement, arrivèrent Abdullah ibn al-Hussein al-Tamimi, Shabat ibn Rabbi et Muhammad ibn Ashad ibn Qays al-Kindi, chacun à la tête d'un bataillon de 1000 cavaliers. Ubaydullah ibn Ziyad envoya une lettre à Omar ibn Sa'ad pour le nommer chef de l'armée et pour demander à tous les autres de se soumettre à son commandement. Ubaydullah ibn Ziyad apprit que Omar ibn Sa'ad et Hussein se rencontraient discrètement la nuit pour discuter et qu'ils détestaient devoir le combattre. En conséquence, Ubaydullah ibn Ziyad dépêcha Shimr ibn Dil-Jawshan à la tête d'un bataillon de 4000 cavaliers et écrivit à Omar ibn Sa'ad « Lorsque tu reçois cette lettre, ne laisse aucun répit à Hussein ibn Ali. Prends-le à la gorge et barre-lui l'accès à l'eau, de la même manière qu'il en a été interdit à Huthman le jour où il fut assiégé chez lui. » Quand la lettre parvint à Omar ibn Sa'ad, il ordonna à son porte-parole d'annoncer « Nous laisserons encore à Hussein et à ses compagnons cette journée et cette nuit. » Chapitre 4. Les événements de la veille d'Ashura. Cette décision fut très difficile pour Hussein et ses compagnons. Alors, ce dernier se leva devant eux pour prononcer un discours. Il leur dit « Ô Allah, Je ne connais pas de famille plus bienfaisante, plus vertueuse et plus immaculée que la mienne, ni de partisans meilleurs que les miens. Vous savez maintenant ce qui va se passer. Ainsi, je vous libère de votre allégeance. Vous n'avez plus aucune obligation sur votre conscience à mon égard. La nuit vous voile, alors prenez-la comme monture et dispersez-vous dans son obscurité, car en réalité, ces gens n'en ont qu'après moi. Une fois qu'ils mourront, ils renonceront aux autres. » À ce moment-là, Abdallah ibn Muslim ibn Akil ibn Abi Talib se leva et dit « Ô fils du messager d'Allah, que diront les gens de nous si nous abandonnons notre chir, notre chef, notre maître, le fils de notre prophète qui est le maître des prophètes? Ils diront que nous n'avons pas jeté de lance ni frappé à l'épée à ses côtés. Non, par Allah, nous ne partirons pas, mais au contraire, nous suivrons ton chemin. Nous sacrifierons nos vies et notre sang pour toi. Et ce n'est qu'en le faisant que nous aurons accompli notre devoir et pris nos responsabilités. » Ensuite, un dénommé, Zuhayr ibn Kayn al-Bajali, se leva et dit « Ô fils du messager d'Allah, j'aurais aimé être tué, puis ramené à la vie, puis tué jusqu'à me faire tuer 100 fois pour qu'Allah épargne ta vie et celle de ceux qui sont avec toi, et pour qu'Allah vous défende, vous, la famille du prophète, à travers moi. » Hussein lui dit, ainsi qu'à ses compagnons, « Que vous soyez gratifiés. » Hussein leur demanda ensuite de creuser des fosses autour de son camp et d'y jeter du bois. Puis il chargea son fils Ali de prendre la tête de 30 cavaliers et 20 fantassins, afin d'aller s'approvisionner en eau. Pendant que ces derniers ressentaient profondément le danger, Hussein déclama les vers suivants. « Ô temps, honte à toi! Quel genre d'ami es-tu? Combien sont morts pour toi, au lever et au coucher du soleil, parmi compagnons et solliciteurs? Le temps ne se satisfait pas qu'un tel remplace un autre. La décision finale appartient au Tout-Puissant. Chaque être vivant parcourra mon chemin. » Ensuite, il s'adressa à ses compagnons. « Levez-vous, buvez l'eau qui sera votre toute dernière ration. Faites vos ablutions et lavez-vous. Lavez vos habits qui seront en finalité vos linceuls. » Puis il dirigea la prière de l'aube avant qu'il ne les charge de finaliser les derniers préparatifs avant la bataille. Il leur demanda de flamber les bois déposés dans les fosses creusées autour de son camp afin d'affronter l'ennemi d'un seul front. Chapitre 5. Le jour d'Ashura. Un soldat du camp de Omar ibn Sa'ad, du nom d'Ibn Abi Juwayriya al-Muzani, s'avança sur son cheval. Lorsqu'il aperçut les flammes étincelées, il tapa des mains et cria « Ô Hussein !» et « Ô compagnon de Hussein, réjouissez-vous du feu ! En vérité, vous vous êtes empressé d'y être dans ce bas monde avant d'y être dans l'au-delà. » En le voyant, Hussein demanda « Qui est cet homme ?» On lui répondit « C'est Ibn Abi Juwayriya al-Muzani. » Alors Hussein dit « Ô Allah, fais-lui endurer le châtiment du feu dans ce bas monde. » À cet instant, son cheval commença à cavaler jusqu'à ce qu'il le jette dans les flammes. Ainsi, Ibn Abi Juwayriya al-Muzani fut entièrement consumé. Ensuite, un autre soldat du camp de Omar ibn Sa'ad, du nom de Tamim ibn Hussein al-Fazari, s'avança et cria « Ô Hussein et ô compagnon de Hussein, ne voyez-vous pas comment l'eau de l'Euphrate brille telle la peau du serpent? Par Allah, vous n'en goûterez pas, ne serait-ce qu'une seule goutte, jusqu'à ce que vous mourriez affligé. » Hussein demanda « Qui est cet homme ?» On lui répondit « Tamim ibn Hussein. » Alors Hussein dit « Son père et lui finiront en enfer. Ô Allah, fait qu'il meure assoiffé en ce jour. » Le narrateur dit « Ainsi, la soif commença à étrangler Tamim jusqu'à ce qu'il chute de son cheval. Les chevaux l'écrasèrent avec leurs sabots et il mourut. » Par la suite, un troisième soldat de l'armée de Omar ibn Sa'ad, du nom de Muhammad ibn Ashad ibn Qays al-Kindi, s'avança et dit « Ô Hussein, fils de Fatima, de quel statut du messager d'Allah prétends-tu jouir et dont un autre ne jouirait pas ?» Alors Hussein récita les vers. « Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres. » Puis il dit « Par Allah, Muhammad fait partie de la famille d'Abraham et la progéniture qui sert de guide est la famille de Muhammad. » Avant de demander « Qui est cet homme ?» on lui répondit « Muhammad ibn Ashat ibn Qays al-Kindi. » Hussein leva alors la tête vers le ciel et dit « Ô Allah, humilie Muhammad ibn Ashat en ce jour. Ne l'honore plus jamais à partir d'aujourd'hui. » À ce moment, Muhammad ibn Ashat s'éloigna de son armée pour assouvir un besoin. Ainsi, il s'isola dans un endroit. Là, Allah le mit sous l'emprise d'un scorpion qui le piqua, en conséquence de quoi il perdit la vie, les parties intimes à découvert. Hussein et ses compagnons commencèrent à éprouver de la soif. Un de ses partisans du nom de Bureir ibn Khudayr al-Hamdani s'approcha de Hussein. Le narrateur du récit, Ibrahim ibn Abdallah, rapporte qu'il était l'oncle maternel de Abu Ishaq al-Hamdani. Bureir dit « Ô fils du messager d'Allah, autorise-moi à m'approcher d'eux et à leur parler. » Après avoir pris le consentement de Hussein, il s'approcha des ennemis et leur dit « Ô gens, de toute évidence, Allah, le puissant et l'exalté, a envoyé Muhammad avec la vérité, en annonciateur et avertisseur, appelant les gens à lui par sa permission. Et il est comme une lampe éclairante. Voici l'eau de l'Euphrate dans laquelle se vautrent les sangliers et les chiens de la région du Sawad. Cette même eau a été interdite à son fils, Hussein. » Les ennemis l'interrompirent. « Ô Bureir, tu as trop parlé. Ferme ta bouche. Par Allah, qu'ils ressentent la soif comme ceux qui l'ont précédé. » Hussein dit alors « Reprends ta place, ô Bureir. » Puis Hussein s'avança brusquement, s'appuyant contre son épée et dit à voix haute « Je vous évoque le nom d'Allah, me connaissez-vous ?» Ils répondirent « Oui, tu es la progéniture et le petit-fils du messager d'Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que mon grand-père est le messager d'Allah ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que ma mère est Fatima, la fille de Muhammad ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que mon père est Ali ibn Abi Talib ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que ma grand-mère est Khadija bin Khuwaylid, la première femme de cette communauté à avoir accepté l'islam ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que le maître des martyrs Hamza est l'oncle de mon père ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que Jafar al-Tayyar qui est au paradis est mon oncle ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que cette épée que je porte est celle du messager d'Allah ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que ce turban que je porte est celui du messager d'Allah ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Par Allah, savez-vous que Ali était le premier à avoir accepté l'islam, le plus savant et le plus magnanime d'entre les musulmans, et qu'il était détenteur de l'autorité sur tous les croyants ?» Ils répondirent « Oui, par Allah. » Hussein dit « Pourquoi alors légitimez-vous le fait de verser mon sang? Pourtant, vous savez que mon père sera demain le protecteur du bassin et qu'il écartera les hommes comme on repousse des chameaux assoiffés d'un point d'eau. Savez-vous aussi que l'étendard de la louange sera entre les mains de mon grand-père le jour de la résurrection ?» Ils répliquèrent « Nous savons tout cela, mais quoi qu'il arrive, nous ne te lâcherons pas jusqu'à ce que tu goûtes à la mort en étant assoiffé. » Hussein prit le côté de sa barbe par sa main. Il était âgé, ce jour-là, de 57 ans. Ensuite, il dit « Le courroux d'Allah s'abattit sur les Juifs lorsqu'ils prétendirent que Uzayr était le fils de Dieu. Il s'abattit sur les chrétiens lorsqu'ils affirmèrent que le Messie était le fils de Dieu. Il s'abattit également sur les Mazdéens lorsqu'ils adorèrent le feu, abandonnant ainsi Dieu. Il s'abattit sur un peuple qui assassina leur prophète, et là, il s'abattra sur cette bande qui entreprend de tuer le fils de leur prophète. » Puis Hur ibn Yazid donna un coup, pour donner un élan, à son cheval, traversa l'armée de Omar ibn Sa'ad pour rejoindre celle de Hussein. Alors que sa main était posée sur sa tête, il disait « Ô Allah, vers toi je me tourne, alors pardonne-moi. Ô fils du messager d'Allah, j'ai saisi de frayeur tes amis, ainsi que les descendants de ton prophète. Aurais-je droit au pardon ?» Hussein répondit « Oui, Allah te pardonnera. » Hur dit « Ô fils du messager d'Allah, m'autorises-tu à combattre pour te défendre ?» Hussein accepta. Alors Hur se mit en avant et déclama « Je frapperai vos gorges avec l'épée pour défendre le meilleur habitant de la région de Khaïf. » Il tua 18 soldats ennemis avant de se faire tuer. Hussein vint à lui alors qu'il saignait beaucoup. Hussein lui dit « Bravo, Hur, de toute évidence, tu es Hur le libre, comme tu as été nommé. Tu es celui qui est libre dans le bas-monde et dans l'au-delà. » Puis Hussein déclama les vers suivants. « Quel homme bon, ce Hur des Bani Riyya. Quel homme digne, ce Hur, lors des échanges de coups de lance. Quel homme louable, ce Hur, lorsque Hussein l'appelle, qui sacrifie sa vie au beau matin. » Ensuite, c'était Zuhayr ibn Kain al-Bajali qui a pris les devants. Il dit en s'adressant à Hussein « Aujourd'hui, nous rencontrerons ton grand-père l'envoyé, Hassan et Ali al-Murtada. » Il tua 19 soldats ennemis, puis tomba sur le champ de bataille en disant « Je suis Zuhayr et je suis le fils de Kain. Je les éloignerai de Hussein par mon épée. » Après lui, ce fut Habib ibn Muzahir al-Hasadi qui s'engagea dans la bataille. Il déclama « Je suis Habib et mon père Muzahir. Nous sommes plus vertueux que vous et plus purs. Nous défendons le meilleur homme lorsqu'il est évoqué. » Il tua 31 hommes parmi les soldats ennemis avant de tomber en martyr. Le narrateur, qu'Allah l'élevé soit satisfait de lui. Ensuite, ce fut Abdallah ibn Abi Urwa al-Rifari qui s'avança, alors qu'il déclamait « Les Bani Rifar savent pertinemment que je volerai au secours de Hussein contre ceux qui veulent verser le sang à l'aide d'épées et de lances mordantes. » Il tua 20 hommes parmi les soldats ennemis avant d'être tué. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Après lui, c'est Bureyr ibn Khudayr al-Hamdani qui s'engagea dans la bataille. Il était le meilleur récitant coranique de son époque. Il déclama « Je suis Bureyr et mon père Khudayr. Il n'y a rien de bien en celui qui ne fait pas le bien. » Il tua 30 hommes parmi les soldats ennemis avant de tomber en martyr. Qu'Allah soit satisfait de lui. Après lui, c'était Malik ibn Anas al-Kha'ili qui s'engageait dans la bataille. Il déclama « Les gens des tribus de Kahil, de Doudan, de Khindaf ainsi que de Kays Aylan savent pertinemment que nos hommes détruisent les rivaux. Nos hommes, soyez comme des lions atroces. La famille de Ali représente les partisans du miséricordieux. La famille de Harb représente les partisans de Satan. » Il tua 18 hommes parmi les soldats ennemis avant de tomber en martyr. Qu'Allah soit satisfait de lui. Après lui, c'était Ziyad ibn Musahir al-Kindi qui s'engageait dans la bataille. Il attaqua les ennemis tout en déclamant « Je suis Ziyad et mon père Muhassir, plus courageux qu'un lion solitaire de la jungle. Ô Seigneur, je suis un protecteur de Hussein, ayant délaissé et abandonné Ibn Sa'ad. » Il tua 19 hommes parmi les soldats ennemis avant de tomber en martyr. Qu'Allah soit satisfait de lui. Après lui, c'était Wahab ibn Wahab qui s'avançait. Il était chrétien avant que sa mère et lui ne se convertissent à l'islam en présence de Hussein. Ils l'accompagnèrent jusqu'à Karbala. Ainsi, il monta sur un cheval, s'empara du pilier d'une grande tente et partit combattre. Il tua 7 ou 8 individus parmi les soldats ennemis, mais finit par être capturé. Il fut présenté à Omar ibn Sa'ad, qui ordonna de lui trancher la tête. En conséquence, on l'égorgea, puis on jeta sa tête devant le camp de Hussein. Sa mère prit son épée et s'avança, mais Hussein lui dit « Ô mère de Wahab, assieds-toi car les femmes n'ont pas à combattre. Ton fils et toi serez assurément auprès de mon grand-père Mohammed au paradis. » Ensuite, c'était Hilal ibn Hajjaj qui s'avançait. Il déclama « Je lance mes flèches dont les coches ont été signées. Aucune pitié pour un esprit dont la peur lui sera inutile. » Il tua 13 hommes parmi les soldats ennemis avant de tomber en martyr. Qu'Allah soit satisfait de lui. Après lui, c'était Abdullah ibn Muslim ibn Akil ibn Abi Talib qui s'engageait dans la bataille en déclamant « Je jure que je ne serai tué qu'en tant qu'homme libre. Bien que je trouve la mort déplaisante, je réprouve qu'on me regarde en homme peureux. Le peureux est celui qui désobéit et qui prend la fuite. » Il tua 3 hommes parmi les soldats ennemis avant de tomber en martyr. Qu'Allah soit satisfait de lui et le couvre de sa miséricorde. Ensuite, c'était Ali ibn al-Hussein al-Asrar qui s'engageait dans la bataille. Lorsqu'il s'avança vers les ennemis, les yeux de Hussein se remplirent de larmes. Il dit « Ô Allah, témoigne contre eux. Le fils de ton messager, celui qui lui ressemble le plus en apparence et dans le comportement, s'est avancé pour les combattre. » Ali ibn al-Hussein déclama « Je suis Ali ibn al-Hussein ibn Ali. Nous sommes, par le Seigneur de la maison sacrée, les plus proches de l'envoyé. Ne voyez-vous pas comment je défends mon père ?» Il tua 10 hommes parmi les soldats ennemis, puis revint vers son père et lui dit « Ô père, j'ai très soif. » Hussein lui dit « Ô mon fils, sois patient. Ton grand-père étanchera ta soif par une jatte pleine. » Alors il retourna sur le champ de bataille. Il combattit et tua 44 soldats ennemis avant de tomber en martyr. Après lui, c'était Qasim ibn Hassan ibn Ali ibn Abi Talib qui s'avança. Il déclama « Ô mon âme, n'aie pas peur, car tous périront. Aujourd'hui, tu atteindras les hauts degrés du paradis. » Il tua 3 hommes parmi les soldats ennemis, puis tomba de son cheval. Qu'Allah soit satisfait de lui et le couvre de sa miséricorde. Hussein jeta un regard à droite puis à gauche, mais ne vit personne pour l'aider. Alors, il leva la tête vers le ciel et dit « Ô Allah, tu es témoin de ce qu'ils font à la descendance de ton envoyé. » Puis les Bani Kilab se mirent en travers de lui et de l'eau. Là, une flèche fut lancée. Elle se planta dans sa gorge et il tomba de son cheval. Il retira la flèche et la jeta. Il recueillit dans sa main le sang qui coulait. Et lorsqu'elle fut pleine, Il l'étala sur son visage et sur sa barbe en disant « Je rencontrerai Allah, le puissant et l'exalté, opprimé, recouvert de mon sang. » Ensuite, il tomba au sol, la joue gauche en premier. L'ennemi d'Allah, Sinan ibn Anas al-Ayyadi, s'approcha de lui, ainsi que Shimr ibn Dhiljawshan al-Amiri, qu'Allah les maudisse tous les deux, accompagnés de soldats parmi les gens de Sham. Ils s'arrêtèrent près de la tête de Hussein. Ils se dirent, les uns les autres, « Qu'attendez-vous ? Apaisez les souffrances de cet homme. » Sinan ibn Anas al-Ayyad, qu'Allah le maudisse, s'approcha de Hussein, le prit par la barbe et se mit à le frapper de son épée à la gorge. Il lui dit, « Par Allah, je t'égorgerai. Je sais très bien que tu es le fils du messager d'Allah et que tu es le meilleur des hommes eu égard à ta mère et ton père. » Chapitre 6. Les captifs après le martyre de l'imam Hussein. Le cheval de Hussein s'approcha de lui et trempa la crinière dans le sang qui se déversait. Puis il commença à galoper et à hennir. Alors les filles du prophète l'entendirent et sortirent des tentes. Elles virent le cheval mais sans cavalier. Alors elles comprirent que Hussein avait été tué. Umm Kulthum, la fille de Hussein, sortit de la tente en pleurs, la main sur la tête, elle disait « Ô Muhammad, voici Hussein, gisant dans le désert, dépouillé de son turban et de sa cape. » Sinan ramena la tête de Hussein ibn Ali auprès de Ubaydullah ibn Ziyad. À cet instant, il déclama « Charge ma selle d'or et d'argent, j'ai tué le roi protecteur, j'ai tué le meilleur des hommes, eu égard à sa mère et son père, le meilleur d'entre eux lorsque sa lignée est évoquée. » Ubaydullah ibn Ziyad lui dit « Malheur à toi, si tu savais qu'il était le meilleur des hommes, eu égard à sa mère et son père, alors pourquoi l'as-tu tué ?» Puis il ordonna de trancher sa tête, ce qui fut fait. Ainsi, Allah hâta que son âme soit jetée dans le feu. Ensuite, Ubaydullah ibn Ziyad dépêcha un envoyé vers Umm Kulthum ibn Hussein qui lui dit « Louange à Allah qui tua vos hommes. Comment juges-tu ce qu'Allah vous a fait subir ?» Elle répondit « Ô fils de Ziyad, si tu te réjouis du meurtre de Hussein, sache qu'il a longtemps réjoui son grand-père. Il lui donnait des baisers, embrassait ses lèvres et le portait sur ses épaules. Ô fils de Ziyad, prépare ta réponse pour son grand-père, car il sera ton ennemi demain. » Qu'Allah a pris sur son messager Muhammad et sa famille. Majlis 31. Suite du récit du martyre de Hussein, dimanche 10 Muharram de l'an 368 après Hégire, jour d'Ashura. L'éminent et le vertueux Sheikh Abu Ja'far Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Musa ibn Babawi al-Qummi nous déclare « Mon père nous dit, Sa'ad ibn Abdullah nous dit, rapporté de Ahmad ibn Muhammad ibn Isa, de Abi Abdullah Muhammad ibn Khalid al-Barki, de Daoud ibn Yazid, de Abi al-Jaroud ibn Bukayr et Bureyd ibn Muawiyah al-Ijli, de Abu Ja'far al-Bakir. » Il dit, Hussein ibn Ali fut très atteint. Il y avait sur lui 321 et quelques blessures causées par des coups de lance, d'épée ou de flèche. Il a été relaté qu'elles étaient toutes de face, car il ne tournait pas le dos à l'ennemi. Muhammad ibn Musa ibn al-Mutawakkil nous dit « Ali ibn al-Hussein al-Sa'ad Abadi nous dit « Rapporté de Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid, de son père Muhammad ibn Sinan, de Abi al-Jaroud Ziyad ibn Mulzir, de Abdullah ibn al-Hassan al-Muthanna, de sa mère, Fatima bin Hussein al-Ji. Les pilleurs entrèrent dans notre tente. À cette époque, j'étais encore une petite fille et j'avais deux chaînes en or à mon pied. Un des hommes commença à les arracher de mon pied, tandis qu'il pleurait. Alors, je lui demandai : « Mais pourquoi pleures-tu, ô ennemi d'Allah ?» Il me répondit : « Comment ne pas pleurer alors que je dévalise la fille du messager d'Allah ?» Donc, je lui dis : « Ne me dévalise pas alors. » Il me dit : « J'ai peur qu'un autre vienne et le fasse. » Ils pillèrent et dévalisèrent tout ce qu'il y avait dans nos tentes, allant même arracher les étoffes de nos dos. Muhammad ibn Ibrahim ibn Ishaq nous dit, Abdelaziz ibn Yahya al-Basri nous dit, Muhammad ibn Zakariya nous rapporta, Ahmad ibn Muhammad ibn Yazid nous dit, Abu Naïm me dit, le garde de Ubaydallah ibn Ziyad me dit, lorsque la tête de Hussein fut apportée, il ordonna qu'on la mette devant lui, sur un plateau rond en or. Puis il commença à tapoter les incisives de Hussein avec le bâtonnet qu'il tenait dans sa main. Là, il dit « Tu as vieilli très rapidement, ô Aba Abdallah !» Un homme présent dans la foule réagit en disant « Arrête ! J'ai vu le messager d'Allah embrasser exactement là où tu poses actuellement ton bâtonnet. » Alors Ibn Ziyad dit « C'est la revanche du jour de Badr. » Ensuite, il ordonna d'enchaîner Ali ibn al-Hussein et de conduire les femmes et les captifs en prison. J'étais avec eux. Toutes les ruelles où nous passions étaient remplies d'hommes et de femmes qui se frappaient le visage et qui pleuraient. Ensuite, les captifs furent jetés et enfermés en prison. Ensuite, Ibn Ziyad demanda à faire venir Ali ibn al-Hussein, les femmes, ainsi que la tête de Hussein. Zainab ibn Ali était parmi eux. Ibn Ziyad dit « La louange est à Allah qui vous a déshonoré et tué et qui a déjoué vos plans. » Zainab répliqua « La louange est à Allah qui nous a honorés par Muhammad et nous a purifiés pleinement. En vérité, Allah a démasqué le débauché et a mis au grand jour les mensonges du pécheur. » Il dit « Comment juges-tu ce qu'Allah a fait subir à ta famille ?» Elle répondit « Le martyr était leur destinée divine. Ainsi, ils s'engagèrent avec bravoure vers leur lieu de repos éternel. Allah vous réunira, eux et vous, le jour de la résurrection, et vous plaiderez devant lui. » Ibn Ziyad s'emporta contre elle au point de la menacer, mais Amr ibn Hurayth le calma. Zainab lui dit alors « Ô Ibn Ziyad, suffis-toi de tout ce que tu nous as déjà fait endurer. Tu as assassiné nos hommes, arraché nos racines, fait violence à ma famille et capturé nos femmes et nos enfants. Si cela te calme, alors oui, tu es maintenant apaisé. » Ibn Ziyad les renvoya en prison et dépêcha des hommes pour annoncer partout la nouvelle du meurtre de Hussein. Puis il ordonna de préparer les captifs et la tête de Hussein et les fit conduire jusqu'en Syrie. Le narrateur. Un groupe de personnes qui avaient accompagné les captifs sur le chemin m'a rapporté que les nuits, ils entendaient des voix de djinns pleurer et se lamenter sur Hussein jusqu'au matin. Ils me dirent aussi, lorsque nous arrivâmes à Damas, les femmes et les captifs furent introduits dans la ville, le visage découvert. À ce moment, les gens malveillants de la Syrie dirent « Nous n'avions encore jamais vu de captif plus beau que cela. Qui êtes-vous » Soukaina bint Hussein répondit « Nous sommes les captifs de la famille de Muhammad. » Ils furent enfermés sur la route de la mosquée où sont habituellement enfermés les prisonniers. Ali ibn al-Hussein, qui était à cette époque un jeune homme, était parmi eux. Un vieil homme parmi les habitants de la Syrie s'approcha d'eux et leur dit « Loué soit Allah qui vous a tués, qui vous a détruits et qui a anéanti les racines de la rébellion. » Et ainsi, il continua à les insulter. Une fois terminé, Ali ibn al-Hussein lui dit « N'as-tu pas lu le livre d'Allah, le puissant et l'exalté ?» Le vieil homme répondit « Mais si. » Alors Ali ibn al-Hussein lui dit « N'as-tu pas lu le verset ?» Dis « Je ne vous demande pour cela nul salaire si ce n'est l'affection eu égard à mes proches. » Le vieil homme répondit « Mais si. » Ali ibn al-Hussein lui dit « Nous sommes cela. » Puis il enchaîna. « N'as-tu pas lu le verset ?»« Donne aux proches ce qui leur est dû. » Le vieil homme répondit « Mais si. » Ali ibn al-Hussein lui dit « Nous sommes cela. » Puis il continua. « N'as-tu pas lu le verset ?»« Ô vous les gens de la maison, Allah veut seulement éloigner de vous la souillure et vous purifier pleinement. » Le vieil homme répondit « Mais si. » Ali ibn al-Hussein lui dit « Nous sommes cela. » Le Syrien leva alors ses mains au ciel et répéta trois fois « Ô Allah, je me repens à toi. » Et continua « Ô Allah, je désavoue les ennemis de la famille de Muhammad et ceux qui ont tué les gens de la maison de Muhammad. Je lisais ton Coran, mais je n'avais pas pris conscience de cela avant ce jour. » Ensuite, les femmes de Hussein furent emmenées devant Yazid ibn Muawiyah. Là, les femmes de la famille de Yazid, les filles de Muawiyah, ainsi que sa famille, crièrent, se lamentèrent et organisèrent une assemblée de deuil. La tête de Hussein fut posée devant Yazid. Alors Soukaina dit « Par Allah, je n'ai jamais vu quelqu'un avoir le cœur plus dur que Yazid, ni un incroyant, ni un polythéiste être plus mauvais et plus endurci que lui. » Alors qu'il regardait la tête de Hussein, Yazid déclama « Et si seulement mes aïeux tués à Badr avaient été témoins de l'affliction des Khazraj face au torrent d'épée ?» Puis il ordonna de fixer la tête de Hussein sur la grande porte de la mosquée de Damas. Il a été rapporté que Fatima bint Ali dit « Lorsqu'on nous fit asseoir devant Yazid ibn Muawiyah, il eut pitié de nous au début et compatit. Ensuite, un homme, au visage rougeâtre parmi les habitants de Damas, se leva et dit « Ô émir des croyants, cède-moi cette jeune fille, » tout en me désignant. J'étais une petite fille ravissante. Je tremblais de peur et je pensais que cela était permis chez eux. Je saisis donc les vêtements de ma sœur, qui était plus grande que moi et plus intelligente. Elle dit alors à cet homme de Syrie « Tu dis faux, par Allah, maudit sois-tu. Ni toi, ni lui n'avaient ce droit. » Yazid se mit en colère et dit « Par Allah, tu mens. Si je veux le faire, je le ferai. » Elle dit « Par Allah, non, Allah ne t'a pas donné ce droit, à moins que tu ne renies notre religion et que tu professes une autre religion que la nôtre. » En entendant cela, Yazid s'emporta de colère et dit « C'est comme ça que tu me fais face ? Ce sont ton père et ton frère qui ont renié la religion. » Elle dit « C'est par la religion d'Allah, celle de mon frère, mon père et mon grand-père, que vous avez été guidés, toi, ton grand-père et ton père. » Il dit « Tu dis faux, ô ennemi d'Allah. » Elle dit « Tu es un émir qui insulte injustement et tu opprimes dans ta gouvernance. » Elle, Fatima bint Ali, dit « Il se tue comme s'il avait eu honte. » L'homme de Damas demanda à nouveau « Ô émir des croyants, cède-moi cette jeune fille. » Il dit « Va-t'en, qu'Allah t'offre une mort certaine. » Muhammad ibn Ali al-Majilawi me dit « Muhammad ibn Abil Qasim, de Muhammad ibn Ali al-Kufi, de Nasr ibn Muzahim, de Lot ibn Yahya, de Haris ibn Ka'b, de Fatima bint Ali. » Puis Yazid ordonna d'enfermer les femmes de Hussein en compagnie de Ali ibn al-Hussein, dans un endroit clos qui ne protégeait ni de la chaleur ni du froid, au point que la peau de leur visage pelait. Il n'y avait pas une pierre de la mosquée sacrée de Jérusalem qu'on soulevait du sol sans qu'il n'y ait du sang frais sous elle. Les gens voyaient le soleil avec une telle rougeur au-dessus de leur toit, comme s'ils avaient été recouverts de tissus rougeâtres, jusqu'à ce que Ali ibn al-Hussein ainsi que les femmes quittent cet endroit et ramènent la tête de Hussein à Karbala. Mohammed ibn Hassan ibn Ahmed al-Walid nous dit, Hassan ibn Matil al-Dakkak nous dit, Ya'qub ibn Yazid nous dit, rapporté de Ali ibn al-Hassan ibn Ali ibn Fadl de al-Daylami qui est Suleyman, de Abdullah ibn Latif al-Taflisi, al-Saddiq Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad dit, lorsque Hussein ibn Ali fut frappé à l'épée, qu'il tomba de son cheval et qu'on vint l'égorger, un annonciateur de la part du Seigneur de la Puissance, le louer et l'élever, cria depuis l'intérieur du trône divin. Ô communauté chaotique et égarée après la mort de son envoyé, qu'Allah ne vous donne le succès ni pour l'Aïd al-Hada, ni pour l'Aïd al-Fitr. Puis Abu Abdullah continua. Par Allah, en vérité, ils n'ont eu de réussite ni ne l'auront jamais, tant que le vengeur de Hussein ne se lève. Que les prières d'Allah soient sur son messager Muhammad et sa famille, les vertueux et les purs.